La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jean Renoir est né à Montmartre en 1894 et mort à Beverly Hills en 1979. Deux lieux qui dessinent le parcours d'une vie à cheval entre deux pays, deux cultures, mais dont le centre de gravité reste Paris, la France, l'Europe. Parmi ses plus beaux films, on compte Boudu sauvé des eaux, La bête humaine, La règle du jeu ou encore French Cancan. Autant de films qui continuent encore aujourd'hui de réjouir les spectateurs et d'inspirer les cinéastes. Sa vie, nous en avons parlé au cours de notre premier épisode. Il est à retrouver sur franceculture.fr et dans l'appli Radio France. Et puis, au cours du second temps de cette série, Charlotte Garçon, rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma, a détaillé pour nous les grands thèmes de l'œuvre de Renoir et insisté sur le thème des diverses frontières qui ne cessent de s'y flouter. Enfin, nous terminerons notre cycle avec un quatrième et dernier épisode portant sur la relation entre les Renoir, père et fils, Jean le cinéaste et Auguste le peintre. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parcourir diverses entrées de son dictionnaire Renoir, nous sommes en compagnie de Philippe De Vita, docteur en langue et littérature française et chercheur associé au laboratoire Pollen de l'Université d'Orléans. Il travaille sur les rapports entre littérature et cinéma, thème qui va nous intéresser en particulier, vous l'entendrez aujourd'hui. Et il vient de publier donc aux éditions Honoré Champion ce dictionnaire Jean Renoir, sous-titré « Du cinéaste à l'écrivain », établi principalement à partir de la correspondance de Renoir sur laquelle il avait également publié en 2015 un essai intitulé « Jean Renoir, épistolier, fragments autobiographiques d'un honnête homme ». C'était aux éditions de l'Harmattan. Bienvenue à tous, voici la compagnie des œuvres.
Un film est un tout. Il n'y a pas évidemment que l'interprétation, il y a des décors, il y a le scénario, il y a la musique, il y a la photographie, il y a l'électricien, pas de sa lampe, enfin, un film est un tout et plus ou moins l'œuvre d'une équipe. Cette équipe, il s'agit de la former, de lui donner une âme, de la diriger, c'est en cela que le metteur en scène est un auteur, mais on ne fait pas un film tout seul, il faut bien le savoir. Et devant un film, comme devant un roman, comme devant une symphonie, il faut bien se dire que ça ne se découpe pas en tranches comme un melon, mais que c'est un tout, que c'est un objet. Un film, ça devrait pouvoir se prendre et se poser sur une table comme un tout.
Jean Renoir au micro de Michel Enfrol en 1965. Bonjour Philippe De Vita.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Alors, un film est un tout, expliqué dans cette archive Jean Renoir, qui s'est d'ailleurs largement exprimé au fond sur son cinéma, il le commentait volontiers. Est-ce qu'on peut dire qu'il était un théoricien du cinéma, un théoricien de sa propre œuvre, ou est-ce que c'est déjà allé un petit peu trop loin que d'affirmer cela ?
Je pense que le mot théoricien est un peu excessif, mais il a réfléchi à son métier par l'écriture, par les mots, à la fois dans ses mémoires, dans ses articles. Il a beaucoup apprécié de s'étudier lui-même, si vous voulez, et d'étudier son propre travail, oui. De là à dire théoricien, non.
Il l'a fait par les mots, il l'a fait par la parole, parce que il a donné beaucoup d'entretiens. Il y a le fameux entretien fleuve donné au numéro 78 des Cahiers du cinéma, à Jacques Rivette et François Truffaut, on en parlait hier déjà. Et vous-même, vous avez consacré une entrée de votre dictionnaire au mot entretien. Qu'est-ce que ça signifiait pour lui, l'entretien, cette volonté d'expliquer son travail ?
Il y a d'abord, dans l'entretien, il y a la dimension orale qui est absolument fondamentale chez Renoir, ce goût de la conversation, du dialogue, le goût de raconter des anecdotes. On se rend compte dans ses entretiens qu'il aime surtout raconter des histoires. C'est pour ça que je suis réticent à l'idée de dire qu'il est un théoricien. Donc c'est d'abord ce goût-là. Et puis
c'est l'histoire qui explique son travail quand même, et on sent qu'il y a quand même beaucoup réfléchi. C'est en cela que il fait peut-être de la théorie.
Voilà, c'est une théorie légère, alerte et légère, on dira. Voilà, c'est pas de la théorie systématique ou voilà. Les entretiens, c'est aussi la rencontre avec une nouvelle génération de futurs cinéastes, ceux des Cahiers du cinéma, et il y a une sorte de pacte qui se noue entre eux. Chacun apporte à l'autre quelque chose. C'est-à-dire que Renoir se voit apprécié par une nouvelle génération. Il se voit en quelque sorte ancré dans la modernité à une époque où sa carrière devient incertaine, dans la deuxième moitié des années 50. Et puis les jeunes cinéphiles des Cahiers, eh bien eux, ils rencontrent une espèce de patron, comme ils l'ont appelé, une espèce de quelqu'un qui représente une filiation pour eux, un modèle pour leur cinéma à venir. Donc l'entretien, c'est un lieu d'harmonie et d'échange entre deux générations.
C'est peut-être pour ça aussi que les entretiens étaient fleuves, parce que ceux qui l'interrogeaient, ces tenants de la nouvelle vague ou de ce qui allait devenir la nouvelle vague, étaient peut-être très admiratifs et n'osaient pas l'interrompre.
C'est ça. Le défaut de ces entretiens, c'est que effectivement, il n'ose pas trop le contredire. Il le conforte même dans ses déclarations. Il y a certaines questions qui sont surtout des incitations à poursuivre pour Renoir sa parole. Ils ont aussi une idée préconçue de ce qu'est Renoir, et parfois Renoir a avoué, par exemple, à Jean-Serge qu'il ne comprenait pas la perception qu'avaient les rédacteurs des Cahiers de son cinéma.
Pourquoi ?
Il ne comprenait pas entièrement. Il était flatté sans comprendre tout à fait la métamorphose qu'on faisait subir à son cinéma.
Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas comprendre, selon vous ? Qu'est-ce qu'il n'arrivait pas à saisir ?
C'est-à-dire on l'a transformé un peu en philosophe de la vie, en visionnaire, et lui était plutôt, se définissait plus modestement comme un artisan, et il résistait à l'idée de penser son cinéma comme celui d'un philosophe ou d'un prophète, quoi. Donc il y a une part de fausse modestie aussi, mais je pense que il a vu l'intérêt qu'il y avait à être ainsi adoubé par la jeune génération, mais je pense aussi qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait un écart, des différences entre eux, et que c'est peut-être ce que dit Renoir d'ailleurs dans sa dernière lettre à Truffaut, par exemple en 78, il lui dit « Mais vous n'avez besoin de personne pour rassembler vos amis de la Nouvelle Vague autour d'une table de chevaliers. Donc vous n'avez besoin de personne, vous n'avez pas besoin de moi pour légitimer le cinéma de la Nouvelle Vague. » C'était une manière de dire « on est différent, on s'apprécie, mais on est différent, on a chacun notre identité. »
Je crois que c'était un mouvement rigoureusement nécessaire. Si on ne change pas, on s'endort, et si on s'endort, on meurt. Il y a un proverbe arabe qui dit « Il vaut mieux être assis que debout, couché qu'assis, mort que couché. Je ne suis pas d'accord du tout. Je trouve qu'il vaut mieux être vivant et courir. La nouvelle vague nous a fait courir un peu, c'est une bonne chose.
Renoir a aimé courir un petit peu avec la nouvelle vague parce que les choses se faisaient de façon peut-être circulaire. C'était un coureur en ce sens, c'était un joueur de manière générale. Il aimait jouer le jeu de l'entretien, jouer le jeu de se raconter. Il se définissait, d'ailleurs vous l'avez dit Philippe De Vita, comme un raconteur d'histoire. Et c'est un thème essentiel de votre dictionnaire Renoir, cette idée que Renoir était un polygraphe. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ça avec vous, parce qu'il y a le cinéma, mais il y a l'écriture aussi. Alors, il faut d'abord signaler qu'il a publié 4 romans, mais aussi 2 pièces de théâtre, une biographie de son père, une autobiographie, des articles de presse. Qu'est-ce que ça signifie, ça, Philippe De Vita, cette espèce de besoin de prendre la plume, de prendre le stylo ?
Ben déjà, oui, l'inventaire que vous faites montre que c'est pas rien, quoi. C'est un pan important de son activité d'artiste.
Vous diriez qu'il est écrivain ?
Non, parce que il n'a jamais eu le statut social de l'écrivain. Donc, dans l'écrivain, il y a une dimension sociale qu'il n'a pas eue. Il n'a pas été reconnu, et encore aujourd'hui non plus, comme écrivain. Mais c'est pour ça que je choisis le mot polygraphe. Parce que le polygraphe, c'est l'homme de l'écrit dont les préoccupations ne sont pas spécifiquement littéraires, qui écrit sans qu'il y ait forcément littérature. Et je crois que ça définit assez bien ce qu'a fait Renoir. Hein, on voit bien qu'il écrit des scénarios. Les scénarios, c'est pas tout à fait de la littérature, ce sont des écrits fonctionnels. Il écrit des lettres qui sont privées, qui sont adressées à quelqu'un d'authentique, donc c'est pas tout à fait ce qu'on attend de la littérature. Voilà, les entretiens sont d'origine orale. Effectivement, vous voyez, on est dans des genres de discours et d'écrits qui sont hybrides et qui ne sont pas tout à fait ce qu'on attend de la littérature.
Mais est-ce qu'il y a une attention pour le style, pour la construction, pour tout ce qui fait littérature ?
Ah, dans ses romans, absolument, oui, absolument. Il y a une attention à la forme. Je pense à son premier roman est un récit, Les Cahiers du Capitaine George, ça s'appelle. C'est un récit encadré, puisqu'on a, à l'intérieur du roman, on a l'insertion des cahiers du héros, le capitaine George, qui sont rapportés par un personnage qui sert de narrateur. Donc on se trouve dans un modèle de récit qui ressemble à ce qui se faisait au XVIIe ou au XVIIIe siècle, par exemple dans les lettres portugaises, c'est-à-dire que Renoir fait celui qui rapporte un manuscrit qu'il aurait trouvé, en quelque sorte. Donc c'est un gage d'authenticité, mais c'est aussi un effet de stylisation de son roman. Donc il y a une véritable attention à la forme.
Suis-je un grand cinéaste ? J'en sais rien. Je ne suis peut-être pas un grand cinéaste, je ne suis peut-être pas un cinéaste du tout. Je crois que je suis plus simplement un raconteur d'histoires. J'ai la manie de raconter des histoires, j'aime ça. À la base, j'étais assez paresseux. Et le fait de prendre une plume, de la tremper dans l'encre et de noircir du papier, et surtout la solitude, le courage, seul devant une feuille blanche, de formuler des mots, tout ça me semblait au-dessus de mes faibles forces. Seulement, j'osais pas me lancer parce que je me méfiais, voyez-vous, du mot art. Et les quelques cinéastes que j'avais fréquentés employait le mot art, disait nous sommes des artistes à tout venant. Et je tenais mon père la crainte de ce mot. Mon père en avait horreur. Il détestait ça. Il disait moi je suis un ouvrier de la peinture.
On l'entend bien, Philippe De Vita, dans cette archive, il y a un rapport ambivalent de Renoir à ce que c'est qu'être un artiste, ce que c'est qu'être un écrivain. Le statut, finalement, lui pèse sans doute un petit peu. Qu'est-ce que c'était, finalement, pour lui, que d'être un artiste ou un écrivain, selon vous ?
Un artiste, c'est d'abord un artisan, celui qui a un rapport sensuel, je dirais émotionnel à la à, à l'expression de son art. Hein. C'est aussi l'idée, s'il a tant écrit de lettres, c'est justement parce que ce genre d'écriture lui permettait de pratiquer toutes sortes de genres à l'intérieur d'une même lettre. C'est-à-dire, c'est une sorte de laboratoire, d'atelier d'écriture, où il va passer d'un récit de tournage à une anecdote, à une argumentation, à un souvenir de son enfance. Bref, moi je crois que son rapport à l'art et son rapport à l'écriture, c'est d'abord une expérience de la multiplicité. Mm-hmm. C'est la capacité de passer d'un discours à un autre. D'ailleurs, dans sa correspondance, il se définit comme un touche-à-tout. Donc je dirais que pour lui, l'artiste, c'est avant tout être un honnête homme qui ne se spécialise pas et qui pratique toutes sortes d'activités. Donc c'est quelqu'un qui refuse la spécialisation de l'homme de science tel qu'il a pu être défini par Durkheim. C'est quelqu'un qui reste dans les humanités et qui pratique toutes sortes d'activités et de discours.
Et un auteur, alors, est-ce qu'on peut dire d'un cinéaste qu'il est un auteur ? Évidemment, il y a le cinéma d'auteur, mais c'est tout de même une notion un peu problématique pour le cinéma, parce que c'est un art collectif, le cinéma. Alors, comment Renoir, qui disait justement travailler assez collectivement, se positionnait-il par rapport à ce terme ?
Mais justement, il est assez ambigu dans ses mémoires là-dessus, parce que ses mémoires sont dédiées aux critiques aux cinéastes de la Nouvelle Vague. Hein, c'est très clairement annoncé dès le début. Et puis, donc, il va se définir comme auteur, comme quelqu'un qui pense que le cinéma est une création malgré tout individuelle. Et en même temps, il dit que ses acteurs, ses collaborateurs sont libres, lui apportent leurs idées. Donc il a une position ambiguë. Je crois que, en fait, s'il s'entend si bien avec les critiques les défenseurs du cinéma d'auteur des Cahiers du cinéma, c'est parce que il est très attaché à son pouvoir sur un tournage. Hein, il savait mettre à l'aise ses collaborateurs pour leur faire croire qu'ils étaient libres d'inventer au même niveau que lui, mais en fait, il savait avec son sens de la sociabilité, de la civilité, il savait mener les autres là où il voulait lui arriver.
Alors, pour prendre cette idée du rapport à la littérature, il y a évidemment dans son cinéma un certain nombre d'adaptations de romans. Il a adapté Zola, Flaubert, Mirbeau également, quand il était aux États-Unis avec Le journal d'une femme de chambre. Donc le rapport aux écrivains, il est peut-être là aussi, justement, dans ses adaptations.
Absolument. Alors, il a adapté beaucoup d'écrivains. Hein. Il y a des scénarios originaux, comme la règle du jeu, mais il y a des modèles d'écrivains. Même la règle du jeu, il y a Musset, Marivaux derrière. Donc son écriture scénaristique est influencée par toutes sortes d'écrivains. Et en fait, on se rend compte que les critiques des Cahiers ont voulu faire croire que Renoir improvisait ses films, et Renoir a lui-même alimenté cette légende. Or, on se rend compte qu'il y a un travail sur les scénarios qui est extrêmement méticuleux. Il fait plusieurs versions de ses scénarios, et les écarts entre ce qui se tourne et ce qui a été écrit pendant la phase du scénario, ces écarts sont minimes, dus aux aléas du tournage, qui fait qu'un tournage n'est pas simplement l'application d'un scénario, mais les dialogues sont déjà écrits, et on voit par exemple dans les rushs de parties de campagne que quand un comédien se trompe sur une réplique, il fait couper la prise et il reprend pour que le dialogue soit respecté à la lettre. Donc Renoir n'est pas du tout un improvisateur qui serait arrivé sur les tournages avec des petites feuilles dans les poches qu'il aurait rédigées au dernier moment, pas du tout. C'est quelqu'un qui réfléchit considérablement ses scénarios, qu'il réécrit de manière extrêmement précautionneuse et minutieuse.
Alors Zola, Flaubert, Mirbeau, ces trois noms qu'on a cités tout à l'heure, ces trois écrivains du 19e, c'est par là qu'ils regardent quand même. Ils regardent le siècle passé en ce qui concerne les écrivains. Ils ne semblent pas portés vers la modernité littéraire du 20e siècle. Puisque c'est l'histoire aussi qui compte. C'est la narration qui compte.
Effectivement, il disait qu'il était un homme, on a dit de lui qu'il était un homme du 19e siècle, il est né un peu juste avant le 20e siècle, et c'est vrai que ses références, c'est le 19e, c'est même aussi l'époque classique, hein. Je crois que il parle de Molière, de Goldoni, des choses comme ça dans son cinéma.
Et il dit d'ailleurs que la France du 19e jouerait, dans l'histoire de la civilisation moderne, le rôle que la Grèce a joué dans la civilisation gréco-latine.
Oui, c'est ce qu'il dit à propos de... Lorsqu'il a le projet très ancien de la biographie de son père, un projet qui date du début des années 40, et qu'on peut situer... à ce moment-là, alors que l'ouvrage ne sera publié que dans les années 60, au début des années 60. Mais dès 41, il a le projet d'écrire, et notamment une biographie de son père, et qui serait pas simplement une vie de Pierre Auguste, mais même au-delà de la vie de son père, serait une sorte de panorama. Donc il a un projet très ambitieux d'écriture, un panorama du 19e, qui serait comme effectivement une résurgence de l'Antiquité. Donc on voit que c'est un projet très ambitieux on peut se demander s'il a réussi à le faire dans son ouvrage final, mais effectivement le 19e, il regarde plus vers le 19e que le 20e. On se rend compte que les écrivains qu'il a cherché à adapter au XXe siècle, ça n'a pas abouti. Par exemple, il y avait le projet d'adapter L'étranger de Camus, ou
Simenon aussi, son grand ami Simenon, avec qui il correspond beaucoup. Finalement, ce n'est pas une collaboration qui sera tellement fructueuse.
C'est ça. Après La nuit du carrefour, qui a été un échec au début des années 30, on a l'impression qu'il y a eu que les deux amis se sont un peu brouillés, et que en fait... lorsque les projets d'adapter Simenon reviendront, c'est toujours, comme le dit Olivier Curchaud, c'est toujours lorsque Renoir est en panne que l'idée de Simenon vient en dernier recours. Mais en fait, il n'en est pas tellement convaincu. Hein, donc, c'est vrai que...
Et pourtant, il y a quelque chose de commun entre Simenon et lui. Je ne sais pas, ne serait-ce que dans une espèce de posture, les deux hommes se ressemblent d'une certaine façon.
Les deux hommes se ressemblent, s'apprécient, se lisent. Il a lu attentivement les livres de Simenon, mais comme souvent chez Renoir, il a beaucoup d'amis, mais lorsqu'il s'agit de passer à la collaboration, à la collaboration plus étroite, parfois ça ne se fait pas. Et il y a des rencontres comme ça qui avortent, qui n'aboutissent pas. Alors que dans la correspondance, Renoir prend plaisir à entretenir la relation, mais de manière presque désintéressée. Ouais. Et finalement, il a plus d'amis écrivains dans sa correspondance que d'amis cinéastes, comme s'il avait besoin d'entretenir des relations avec des gens qui sont différents de lui, avec lesquels il peut entretenir une relation sans que cela ait des retombées dans la création elle-même.
Alors Simenon, c'est évidemment un auteur du 20e, mais c'est quand même un auteur de la narration, c'est pas un écrivain de l'avant-garde. Justement, ça pose un petit peu la question de la modernité foncière de Jean Renoir. Est-ce qu'on peut dire qu'il était un cinéaste moderne, si on reprend un petit peu les catégories d'Antoine Compagnon, qui a classé comme ça les modernes et les antimodernes, en disant des antimodernes, que c'était des modernes mais qui n'étaient pas dupes de la modernité? Alors comment le classer selon vous, Philippe de Vita?
C'est un sujet complexe, hein, comme souvent chez Renoir, un sujet ambivalent. D'un certain côté, on peut dire que c'est un cinéaste qui qui annonce la modernité de l'après-guerre. Par son souci du réalisme, il annonce le néoréalisme italien, par exemple. Mais on se rend compte aussi qu'il est moderne parce que ce réalisme est stylisé, hein, comme vous l'avez montré hier avec Charlotte Garçon dans l'émission, c'est-à-dire que c'est un réalisme qui n'est pas exempt de théâtralité, d'abstraction, de formalisme, et en cela, ça peut annoncer la modernité. Également, le fait que Renoir utilise une caméra mobile, ça donne une apparence subjective à la caméra, une apparence subjective à son discours, ce qui peut annoncer les ruptures à venir entre la fiction et la narration. Donc ça, c'est également le fait que, pour des raisons extérieures à l'esthétique, le fait qu'il fasse un cinéma qui soit en consonance avec le Front populaire, c'est aussi une manière d'entrer dans la modernité, qui est quand même la structure historique du changement. Donc ça, c'est effectivement l'argument pour dire qu'il est moderne, mais on se rend compte en lisant sa correspondance, si on lit sa correspondance attentivement, il y a des critiques de la civilisation moderne, justement, une critique du progrès qui impliquerait, selon lui, une perte, une disparition de la civilisation. Et donc je crois que Renoir, même si dans les années 40, il continue à participer à des organisations de gauche aux États-Unis, eh bien, il est un moderne qui ne... Il dit dans un entretien au Cahier du cinéma qu'on peut être moderne sans le vouloir. Je crois que c'est une... Il est moderne un peu à contre-cœur parce que il va critiquer le progrès. On voit bien que dans un film comme Le Déjeuner sur l'herbe, il y a une critique de la génétique, une critique de...
Je vous propose peut-être d'écouter justement un extrait du Déjeuner sur l'herbe.
Eh ben, moi, je suis pas d'accord.
Avec le catch ?
Bah, avec le catch. Avec Étienne Alexis. C'est peut-être un grand homme, mais je trouve qu'il va un peu fort. À quoi, je suis pas marié, moi. Heureusement. Mais si je l'étais, ben, j'aimerais pas du tout que ma femme me trompe. Même avec une éprouvette.
Moi, je suis de l'avis de Bailly. L'amour, ça existe encore, quoi qu'en pensent les biologistes.
Oh, qu'est-ce que t'en sais ?
Ça ne te regarde pas.
Je peux te donner une leçon ?
Que vous êtes bêtes, tous !
Ah, voilà, Forestier est parti. On te fâche pas, on va pas te l'abîmer, ton Étienne, Alexis.
Moi, je vais avoir un enfant avec un vrai homme. Je suis pour la nature.
Oui, oh, bah, moi, je trouve que tout vaut mieux plutôt que de voir des abrutis nous balancer les bombes atomiques sur la tête.
Mais il n'y a qu'à les supprimer, les bombes atomiques.
Ah, vous êtes marrants, tous, il n'y a pas que les risques de guerre. Maintenant, une fuite d'essence dans un camion, ben, ça fait un incendie, puis c'est tout. Mais quand ça sera une fuite de radiation ? Ça voudra le cancer à tout un quartier, peut-être même à toute une ville.
Alors il faut renoncer au progrès.
Et pourquoi pas? Ça devait être si joli du temps des diligences.
Le bon vieux temps. Le seau d'eau que l'on allait chercher au puits, l'éclairage à la chandelle, les opérations sans anesthésie, la crasse, l'ignorance, l'esclavage, quoi. Ben excuse-moi, moi j'aime mieux mon scooter, ma cuisinière électrique, mon pick-up avec mes bons disques.
Mais le cancer.
Mais fais confiance aux savants, ils le guériront le cancer.
Alors tu admets les enfants avec des éprouvettes?
Mais un monde nouveau, il faut une humanité nouvelle. D'ailleurs, moi, c'est bien simple, je suis pour la dictature des savants. Eux seuls, ils comprennent quelque chose.
Oui, ben toi, tu parles trop, tiens. C'est pas étonnant que tu sois restée vieille fille.
Moi, j'ai été mariée, je suis divorcée.
Non, à cause.
Bah, à cause du nudisme. Moi, j'aime faire du nudisme, et mon mari avait peur des rhumes. Oh.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Oui, sur la question de la modernité, cet extrait incarne bien la maxime de Renoir. Tout le monde a ses raisons, finalement. Trancher n'est pas évident.
Absolument. Et c'est la réaction à une émission de télévision qui est au début du film. Et il présente tous les points de vue. Mais on voit bien quand même que c'est bien le personnage du professeur Alexis est assez ridiculisé quand même dans le film, et on voit bien que Renoir prend le parti de la nature, hein, contre la science la plus moderne. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce qui fait échapper Renoir à l'antimodernisme, tel que le définit Antoine Compagnon, c'est qu'il n'est pas du tout dans la vitupération, dans la colère face au constat que que la modernité ne lui plaît pas. Il critique le progrès, mais il consent à cette décadence. D'ailleurs, le film Le Déjeuner sur l'herbe, ce qui fait son intérêt, c'est qu'il se range dans un genre de qu'on pourrait définir comme la science-fiction humoristique, un peu, il y a un ton.
Oui, c'est quand même une farce, c'est quand même une comédie. On peut peut-être rappeler un tout petit peu l'histoire de ce film, enfin, ce que raconte le film, bâti autour d'un personnage illustre, un savant extrêmement connu, interprété par Paul Meurice, qui a pour champ d'investigation la biologie, et qui est arrivé à la conviction que, finalement, pour répondre aux problèmes posés par une technique chaque jour un peu plus compliqué, ben finalement il faut créer une humanité qui soit susceptible de dominer tous ces problèmes, et donc il faut que cette humanité soit modifiée, et tout ça conduit à l'insémination artificielle des femmes. Ça c'est le postulat de départ, et puis qu'est-ce qui se passe après ?
Eh bien il y a une femme qui vient de la campagne et qui veut avoir un enfant par insémination artificielle, en fait. Voilà, donc elle vient voir le professeur Alexis pour être une sorte de cobaye, et donc elle se fait embaucher, et puis ça c'est le point de départ, mais ça va très vite dériver à partir d'un... En fait, le professeur Alexis fait un déjeuner sur l'herbe à la campagne auquel il convie des journalistes pour, je crois, annoncer sa candidature ou à la présidence de l'Europe, hein, on voit bien que on est l'actualité.
Il y a tous les thèmes d'actualité finalement dans ce film.
Brûlante, c'est ça, voilà. Et puis le déjeuner se passe mal parce qu'il y a du vent qui emporte tout, et le professeur Alexis va vivre une sorte d'idylle avec cette jeune femme qui voulait un bébé par éprouvette, et donc ça va être le...
Ça lui fait changer d'avis, quoi, finalement.
Ça lui fait changer d'avis. Il va retrouver contact avec la nature, et donc on voit bien le message que veut faire passer Renoir.
Mais est-ce qu'on en est sûr ? Parce qu'il y a aussi cette idée que le film a été mal compris, qu'on a pris ce film pour étant un peu un film obscurantiste, en tout cas opposé à la science. Mais c'est pas forcément ce qu'a voulu faire Renoir. Encore une fois, là, on est dans un gris clair ou un gris foncé plutôt que dans du blanc ou du noir.
Obscurantiste, oui, c'est excessif. On dira panthéiste. En tous les cas, il y a un passage où le professeur Alexis contemple donc la jeune héroïne en train de se baigner. Donc c'est une manière...
Lui-même est très boutonné, cravaté.
C'est ça, donc il est ridicule, il fait celui qui fait semblant de ne pas regarder. Mais il y a aussi toute une séquence très belle où il n'y a que des plans de nature qui ont été pris... par son directeur de la photographie, donc des plans uniquement documentaires, quasiment documentaires de nature. Donc on voit bien que Renoir opte pour un panthéisme, voilà ce que je dirais. Donc c'est pas du tout une critique acerbe de la modernité, c'est plutôt une
célébration de la nature, et puis peut-être aussi une célébration de la joie.
J'espère, je crois, j'ai essayé dans tout mon travail, et cela depuis que j'ai commencé à faire des films, j'ai toujours essayé de faire des films parce que ça m'amusait. Mon principal objectif était ma propre joie. Et la joie, une joie qui existe pendant la fabrication. Le résultat, en réalité, ça ne m'intéresse pas tellement. J'ai plusieurs films qui ont eu du succès, j'en ai qui ont eu des insuccès notoires, mais ça m'est complètement égal. Ce qui existe, c'est de faire. Je crois même que ça existe surtout dans tous les aspects de la vie. Je crois que tous les gens qui s'attachent au résultat et qui poursuivent un but, je suis persuadé qu'ils sont extrêmement malheureux. Et que lorsqu'ils arrivent à ce but, ils s'aperçoivent que le but ne valait pas tous les efforts qu'ils ont faits. Tandis que la joie du travail, la joie de fabriquer un objet, une fois l'objet fabriqué, on le met de côté. Mais la joie pour un sculpteur de pousser la terre glaise avec son pouce ou de tailler la pierre avec un marteau, ou pour un peintre de deviner les rapports qu'il y a entre un bleu et un rouge et d'exprimer un petit morceau d'éternité avec ce rapport, n'est-ce pas ? Mais c'est pendant qu'on le fait que ça compte. N'est-ce pas ? Après ça, mon Dieu, les gens disent c'est bien, c'est pas bien. Bah tant pis, ça les regarde.
Plaisir, cette jubilation à travailler, à faire des films, est-ce que c'est pas aussi l'un des secrets du talent de Renoir et qui fait que ces films sont si agréables à regarder, si intéressants?
Oui, la joie de d'être ensemble avec les autres, je dirais que la joie, c'est pas une joie béate. C'est aussi, je crois que le cinéma de Renoir est travaillé par le désir. Hein, donc il y a quelque chose de
il y a de la frustration plus... aussi.
Absolument. D'ailleurs, dans Le Déjeuner sur l'herbe, par exemple, si Le Déjeuner sur l'herbe est emporté par le vent, c'est parce qu'il y a un berger avec un bouc, une sorte de satyre qui déclenche une espèce de vent dionysiaque. Donc il y a quelque chose. Et puis tout le monde devient lubrique sur le déjeuner. Donc on voit bien que derrière cette joie, il y a un désir avec une part d'obscurité, de menace. Hein, il y a quelque chose d'un peu menaçant dans la création aussi. Hein.
En tout cas, il y a de l'humour dans ce côté dionysiaque.
Il y a de l'humour aussi, oui.
Tout comme il y a de l'humour de manière générale chez Renoir.
Absolument, oui. Et dans sa correspondance, l'humour joue un rôle très particulier. L'humour lui permet vraiment de désamorcer toutes les souffrances qu'il peut avoir dans son travail dans les studios. Hein. Surtout pour son premier film à la Fox, comme il a des rapports difficiles avec Daryl Zanuck, il va utiliser la correspondance pour faire preuve d'autodérision.
C'est une soupape alors l'humour pour lui ?
Absolument, oui. En tous les cas, dans sa correspondance, la correspondance sert de ce qu'il appelle à faire fonctionner le trop-plein. Donc c'est une manière c'est une sorte de soupape ou une sorte d'exutoire pour ne pas souffrir, parce que les débuts aux États-Unis sont vraiment très difficiles, parce que Renoir ne parle pas anglais, il est confronté à des méthodes hollywoodiennes qui ne sont pas celles qu'il avait, il n'arrive pas à imposer ses projets au studio.
Justement, ça nous ramène un peu à la question de départ de cette émission, qui est la question de l'auteur. Comment être un auteur dans l'industrie hollywoodienne? J'imagine que dans sa correspondance, ça figure beaucoup.
C'est justement le début de son expérience américaine. Dans sa correspondance, c'est le moment où il se met à réfléchir. On commençait par l'aspect théorique, où il va prendre conscience de sa méthode de travail telle qu'il l'a employée dans les années 30. Et il se rend compte, il dit qu'il était avant tout un auteur d'histoire, un auteur qui se caractérisait par son travail sur les scénarios. Donc il se définit comme auteur bien avant que les gens des cahiers dans les années 50 le métamorphosent en le sacralisent comme auteur. Il en avait déjà conscience, mais pour lui c'était pas simplement qu'il était un improvisateur, au contraire c'était quelqu'un qui travaillait sur les écrits, qui peaufinait ses histoires, et que justement à Hollywood... Le réalisateur, c'est ce qu'on appelle le director, c'est-à-dire celui qui réalise sur des scénarios qu'il n'a pas écrits. À Hollywood, toutes les tâches du cinéma sont compartimentées, et Renoir a eu beaucoup de mal à le supporter, et c'est pour ça qu'il va se tourner vers des productions indépendantes. Par exemple, le Journal d'une femme de chambre est un film qui est produit par une compagnie qu'il a partiellement créée avec des comparses pour pouvoir travailler sur le scénario et pour pouvoir régir toutes les composantes du cinéma.
Je ne donne pas de directive du tout. J'essaye de procéder d'une façon différente. Je dois d'ailleurs l'adoption de cette méthode à mon ami Louis Jouvet, à mon frère Pierre, à Michel Simon, quelques très grands acteurs avec qui j'ai travaillé, et qui connaissait cette méthode et la pratiquait depuis très longtemps. En jargon de théâtre, on appelle cette méthode la méthode à l'italienne. Cela consiste à s'asseoir autour d'une table, le metteur en scène et les interprètes, et à lire un texte en s'interdisant toute expression. Il s'agit de lire le texte comme on lirait l'annuaire du téléphone. Peu à peu, on est extrêmement surpris de voir que les acteurs qui s'interdisent toute expression trouvent une expression véritable qui n'est pas l'expression cliché, l'expression prise dans un tiroir, qu'ils prendraient s'ils voulaient tout de suite donner une forme à leur interprétation. Autrement dit, l'acteur à qui on dit lisait un texte. Ce texte est le suivant. Ah, ma pauvre mère, je suis désolé de vous voir mourir. Vous voyez, j'improvise un texte très fort. Eh bien, il est évident que si l'actrice à qui on demande de dire à ma pauvre mère, je suis désolé de vous voir mourir, le dit tout de suite avec expression, son expression sera fausse. Son expression ne peut pas être sincère, on ne trouve pas l'expression. Le mystérieux mariage du personnage et de l'acteur, de l'être humain et de l'être inventé, ça ne se fait pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Faut du temps, faut faire sa cour au personnage pour rentrer dedans. N'est-ce pas? Comme il faut faire sa cour à une femme intéressante pour arriver à ce qu'elle vous accepte. L'actrice dira sa phrase avec une espèce de faux pathétique, n'est-ce pas? Et ce faux pathétique plaira peut-être, mais à moi m'est insupportable. On m'a raconté des tas de blagues. On m'a dit, le metteur en scène doit être un peintre, le metteur en scène doit être un artiste, le metteur en scène doit être un chef d'orchestre, un compositeur. Moi je crois que le metteur en scène c'est un accoucheur, c'est une sage-femme.
Entretien avec Michel Onfroll en 1965 et un Jean Renoir en accoucheur d'acteur. Vous souscrivez à cet autoportrait qu'il fait, Philippe de Vitard ?
On va dire que ça fait partie des légendes.
Il le répète beaucoup, mais en fait, si on
écoute attentivement les témoignages de comédiens comme Françoise Arnoul ou Michel Simon, on voit que Renoir, qui aurait rêvé lui-même d'être acteur, et qu'il a été dans certains de ses films, parfois jouait le rôle pour montrer aux comédiens ce qu'il fallait faire. Oui. Donc,
vous prenez l'exemple de Paulette Dubost, justement, dans La Règle du jeu, qui joue la domestique, qui préfère rester fidèle à son employeuse plutôt que de suivre son mari en Alsace. En quoi ça peut illustrer ce propos-là?
C'est-à-dire que concernant Paulette Dubost, je ne sais pas exactement, mais l'idée qu'il travaille sur des répétitions à l'italienne, c'est largement une légende. En fait, il travaillait par des répétitions très précises et par des prises successives. On se rend compte que, par exemple, dans le film de Gisèle Braunberger, la direction d'acteur par Jean Renoir, ce qu'il lui fait faire, c'est une mise en scène de sa direction d'acteur, mais c'est pas comme ça qu'il travaillait vraiment sur les films. Et on se rend compte que dans ce film sur la direction d'acteur, en fait, il dicte bien à Gisèle Braunberger comment elle doit interpréter le rôle de cette jeune fille. Il lui dit de la jouer en colère, moins petite fille. Donc il la dirige bien, il n'attend pas ce qu'il appelle une prétendue étincelle qui viendrait d'une lecture neutre. Donc ça, moi j'y crois pas.
Et comment vous expliquez qu'il est tellement tenu alors à faire croire que c'était la façon dont il travaillait?
Parce que ça, cette répétition à l'italienne était utilisée par Sanford Meisner, c'est-à-dire un proche de l'acteur studio, c'est-à-dire que c'est une manière de s'ancrer dans la modernité, de montrer qu'il est proche des méthodes de l'acteur studio, et c'est une manière de plaire aux jeunes critiques des années 50. Donc c'est une stratégie pour rester ancré dans une certaine modernité, alors même que sa carrière est en déclin.
comme si il se mettait dans la roue finalement des cahiers du cinéma, par exemple, qui disent l'admirer et aimant beaucoup l'admiration qu'on lui porte, amplifiant un petit peu ce qui n'existe peut-être pas tout à fait, mais qui existe dans la tête des journalistes ou des critiques ou des futurs cinéastes des cahiers.
Absolument, oui. Oui. Et si ces légendes sont si tenaces, encore parfois aujourd'hui, eh bien c'est parce que ça a été un travail commun entre le champ de la critique et le créateur lui-même. Et c'est ce qui fait que ça s'est répandu dans la presse, dans l'esprit des spectateurs, et que eh bien il faut le travail de certains chercheurs pour essayer de nuancer ou de désamorcer ces légendes. Voilà.
Mais alors, qu'est-ce qui ferait, selon vous, s'il y a une originalité de la direction d'acteur de Renoir? Parce que quand même, ces films ne sont pas comme les films de ses confrères. Il doit donc y avoir quand même quelque chose de particulier dans sa manière, notamment, de diriger des acteurs. Et quand même une forme de fluidité, tout de même, dans l'action telle qu'elle se passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut quand même dire sur la spécificité de ce travail?
Ben, je crois que c'est relativement simple, c'est qu'il sait mettre en confiance ses acteurs, il sait leur donner une place ou leur donner l'illusion qu'ils ont une liberté, voilà. Et donc c'est un travail de, on dirait, relationnel aujourd'hui, c'est-à-dire il sait entretenir ses relations, les relations avec ses acteurs pour qu'ils se sentent bien et qu'ils se sentent autorisés à tenter des certaines interprétations. Et c'est si Paulette Dubost joue si elle est si craquante dans La Règle du jeu, c'est parce que elle aime beaucoup Renoir et qu'elle se sent en confiance et qu'elle veut donner le meilleur d'elle-même finalement.
Hein. Mm-hmm. C'est un peu un coach finalement, Renoir.
Oui, on pourrait dire ça aujourd'hui. C'est quelqu'un qui soigne le lien, qui entretient le lien. Et c'est pour ça qu'il a tant écrit de lettres, c'est parce que une lettre, c'est ce qui magnifie la relation, qui l'entretient tout le temps, même sans raison, on écrit une lettre pour avoir des nouvelles, pour se rappeler au bon souvenir de son correspondant.
D'ailleurs, je crois sur le plateau, quand les acteurs ne faisaient pas exactement ce qu'il avait en tête, il allait les voir, il leur disait oh, « c'était formidable, vous avez été tout à fait bien, on va la refaire ». Est-ce que c'est une anecdote qui était exacte?
Absolument, oui. C'était ce qui se passait, c'est-à-dire il ne critiquait jamais ses comédiens et ses collaborateurs. Ce qu'il recherche, c'est pas du tout le conflit. Il évite le conflit, il a peur des conflits de manière générale, Renoir. Donc il apaise tout, il calme tout pour qu'il y ait un climat de confiance absolue. Oui. Donc il disait on va en refaire une, oui, absolument. C'est épatant, c'était la formule. C'est épatant, mais on va en refaire une. Voilà.
Remarquez, je ne me rends pas compte très bien de ce que je fais ni de où je vais. Je puis dire, sans me tromper, par exemple, que le vrai sens de la grande illusion, à savoir la croyance, ma croyance profonde en une division du monde, non pas verticalement, non pas en nations, mais horizontalement, c'est-à-dire en tournure d'esprit, en nature humaine et surtout en profession. Je crois beaucoup aux professions. La division du monde de cette façon, qui est un des thèmes de la grande illusion, il m'est apparu que j'avais travaillé dans ce sens-là que lorsque le film a été terminé, peut-être même lorsque je l'ai vu avec du public. Et ce sont les réactions du public qui m'ont indiqué ce que j'avais voulu dire. La grande chose est de partir sans vouloir formuler le message, je crois. Je crois qu'il faut attendre que le message se formule tout seul. Ou plutôt qu'il se formule malgré vous. Autrement dit, il faut être influençable. Personnellement, j'essaie d'être influençable. J'essaie de voir les hommes, de voir la vie, d'en prendre ce que je puis et de le traduire. Vous ne le découvrez que par le travail.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mais cette volonté d'être influençable, on peut peut-être la lier à la peur du conflit dont vous parliez, Philippe De Vita. Peut-être qu'il y a une volonté de faire plaisir aussi chez Renoir et en même temps de cacher sa volonté propre tout en mettant finalement au premier rang, mais sans le dire. Tout cela est bien mélangé, j'imagine.
Oui, absolument. C'est une. Moi, je rattache ça à une identité d'honnête homme, c'est-à-dire de quelqu'un qui a le souci de l'agrément, le souci de plaire. Il a une formule qu'il dit à Truffaut dans une lettre. Il dit on ne résiste pas au plaisir de faire plaisir à un ami. Mm-hmm. Donc c'est ça. C'est le plaisir. De la relation, le plaisir de la sociabilité.
Et qu'est-ce que ça donne alors politiquement ? Comment ça se traduit politiquement ? C'est un peu la grande question aussi au sujet de Renoir.
Ah bah alors justement, là c'est le c'est peut-être le point le plus épineux, quoi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui ont pas pardonné politiquement que Renoir semble, je dis bien semble, se détourner du Front populaire, du communisme et du syndicalisme.
Il a pourtant très largement soutenu avec La Marseillaise, film financé par souscription, commandé par la CGT, La vie est à nous, film commandé par le Parti communiste français, film de propagande en 1936. Donc des engagements quand même dans les années 30 politiques très marqués.
Alors, il subit l'influence de sa compagne de l'époque, Marguerite. Et puis il y a une part, d'opportunisme aussi. Il faut le dire. Il sent que c'est un moyen d'avoir du succès, que de faire des films qui entrent en consonance avec le Front populaire. Voilà, c'est un moyen pour lui d'augmenter sa réputation. Et puis quand il voit que le Front populaire est en déclin, eh bien il va faire des œuvres moins marquées politiquement. Donc c'est je dis pas qu'il n'a pas qu'il a menti sur son engagement politique, pas du tout. Je crois qu'il a été sincèrement adhéré à certaines idées, hein. D'ailleurs on le voit bien dans les articles qu'il donne. Il tenait une chronique dans le journal Ce Soir qui était dirigé par Aragon, et il critique le nazisme, et on peut pas le suspecter de duplicité ou pas du tout, hein.
Il
défend le droit à la paresse. Bref, il adhère aux idées du moment, mais quand ces idées refluent, eh bien lui-même va se tourner vers autre chose.
Oui, parce que finalement sa conviction, elle est peut-être d'abord esthétique, elle est peut-être d'abord dans le mode de vie aussi qu'il a envie d'avoir, dans une relation apaisée avec les autres, mais qui n'est pas forcément une relation militante au monde.
C'est ça, oui. Oui, je crois qu'il est... il est trop mené par le plaisir pour affirmer un engagement virulent. Je crois que c'est pas du tout un militant dans sa démarche artistique. Et en fait, on se rend compte que... par exemple... Aux États-Unis, il continue à œuvrer pour des organisations ancrées à gauche, mais que dans sa correspondance, soit il tient des propos un peu clichés sur le progrès qu'il condamne, soit il se tient à l'écart de toute opinion politique trop affirmée.
Mmh. Hein. Il a par exemple soutenu le People's Educational Association, qui était né d'un congrès d'écrivains et qui voulait éduquer les travailleurs contre le fascisme inconscient. Ça, c'était entre les années 1943 et 1945.
Voilà, donc il est engagé, mais son engagement est pudique, discret. Ce n'est pas quelqu'un qui part la fleur au fusil et qui se méfie des gens qui ont bonne conscience et qui, par exemple, condamnent Vichy depuis les États-Unis, depuis le lieu confortable que sont les États-Unis, qui condamnent la France, etc. Donc il essaie de se tenir à l'écart de tout débat trop marqué.
Il y a une entrée dans votre dictionnaire, une entrée Lisbonne, où il est question d'accusations qui ont été portées à l'encontre de Jean Renoir dans un journal portugais ou alors peut-être déformé par des Français, une interview donnée à un journal portugais sur des questions d'antisémitisme. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Eh bien, disons que moi, j'ai été voir à la source, parce que ces articles ont été longtemps un peu... On ne les connaissait pas, ils étaient un peu... On en avait des versions retraduites, déformées, notamment à cause d'Henri Janson, qui avait publié des articles à charge contre Renoir.
Mais qu'est-ce qu'il avait contre Renoir ?
Oh ben, il en avait que Renoir, ben justement, ça fait partie... Henri Janson fait partie de ceux qui n'ont pas apprécié que Renoir parte aux États-Unis, délaisse la France, délaisse les communistes, etc. Donc il en avait contre lui, et il a accusé Renoir d'avoir dit qu'il aurait fallu désenjuiver la France. Alors moi, j'ai été voir à la source les articles portugais, le mot désenjuiver n'y est pas. Par contre, effectivement, il y a des propos... Là aussi, ambigu, il parle de la responsabilité des producteurs émigrés qui n'avaient rien à perdre dans la France de l'entre-deux-guerres, qui avaient le goût de l'aventure, qui faisaient du cinéma comme on joue à la roulette et qui faisaient des combines improvisées. Donc on voit bien qu'ici, il accuse ces producteurs émigrés de faire des projets qui s'écroulaient comme des châteaux de cartes. Donc on voit bien qu'il y a un reproche... savamment dissimulé, mais quand même très présent, un reproche à ses producteurs d'un goût de la spéculation financière. Donc on voit bien qu'il y a, sous ce discours, un anti-judaïsme économique. Hein.
La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulin protège les amoureux. Petite mendicotte, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre. Te casse mal nourri, mais sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit.
Vous ne pouvez pas se quitter sans écouter La Complainte de la Butte, écrite par Renoir pour son film French Cancan et interprétée ici par Daniel Darc. Merci beaucoup Philippe De Vita. Il reste encore beaucoup d'entrées à explorer dans votre dictionnaire Renoir, paru aux éditions Honoré Champion. Je conseille à tous les auditeurs de le faire. C'est la fin de cette compagnie des œuvres. Merci à Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et Olivier Arnay, sans qui rien ne serait possible. Demain, dernier moment de notre cycle, Jean Renoir, nous parlerons de sa relation avec son père, le peintre Auguste Renoir. Ce sera en compagnie de Sylvie Patry, commissaire d'exposition au Musée d'Orsay à Paris. Et tout de suite, sur France Culture, on retrouve les sciences.